Alors, bonsoir à tous. Ceci donc est un cours d'Ancien Testament pour les étudiants du premier cycle en niveau 3. Alors, pendant ce semestre, nous allons parcourir les livres sapientiaux de la Bible, de l'Ancien Testament. Et nous allons commencer par le livre des Proverbes. Mais auparavant, je veux dire que il y a donc un groupe de livres de la Bible des 70, au nombre de 6, que traditionnellement on appelle, en faisant référence à leur contenu, donc le livre didactique, ou en faisant référence à leur forme, livre poétique. Mais ces appellations, aujourd'hui, on utilise plutôt la terminologie de livres sapientiaux. C'est tout à fait à bon droit, parce que le thème principal de ces livres, c'est le thème de la sagesse, Chokhma en hébreu et Sophia en grec. Et on peut dire que le thème de la sagesse est le thème commun de ces livres sapientiaux. Bon, donc il s'agit d'abord du livre des Proverbes, qui est le premier d'entre eux. Ce livre des Proverbes n'est pas très abondamment commenté, parce que dans les églises chrétiennes, seul finalement dans l'Église orthodoxe qu'il connaît un usage liturgique, puisque pendant les semaines de la Sainte Quarantaine, donc pendant le Grand Carême, nous lisons le livre des Proverbes du lundi au vendredi à Vêpres. Et nous verrons plus tard comment est organisée cette lecture du livre des Proverbes pendant la Sainte Quarantaine. Alors, il y a le livre des Proverbes, il y a le livre de l'Ecclésiaste, Kohelet en hébreu, donc de Kahal, l'Assemblée, d'où Ecclésiaste, l'homme de l'Assemblée, puisque nous savons tous, Ecclésia en grec désigne l'Assemblée, terme qui a donné Église en français. Il y a le Cantique des Cantiques, le livre de Job, le livre de la sagesse de Jésus ben Sirach, ou ecclésiastique, ainsi nommé. Cette titulature d'ecclésiastique pour ce livre, on la doit à Saint Cyprien de Carthage, au IIIe siècle, parce que ce livre est élu dans l'Assemblée, donc l'Ecclésia, l'Église. Il est élu pour la préparation des catéchumènes. Vous vous souvenez que l'an dernier, il y a 2 ans maintenant, lorsque nous avons parlé de la formation du canon biblique, ces livres font entre autres partie d'un groupe plus vaste de livres qu'on appelle les anagignoskomena, c'est-à-dire des livres qui ne sont pas lus dans la liturgie ou même dans les offices, mais que l'on peut lire pour la préparation des catéchumènes, puisque cette terminologie signifie que ce sont des livres utiles à lire. Et c'est pourquoi ils sont dans le canon des 70 et par conséquent dans le canon de l'Église orthodoxe. Et enfin, donc, le livre de la sagesse de Salomon. Alors, bon, il faut tout de suite dire que le thème biblique de la sagesse ne se limite pas à cette collection de livres sapientiaux, dans la mesure où on le retrouve, ce thème de la sagesse, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, comme par exemple dans les épîtres de Saint Paul et dans celle de Saint Jacques. Nous avions vu également dans les cours dispensés sur la formation du canon biblique, que les livres de la sagesse de Sirach et le livre de la sagesse de Salomon n'appartiennent pas au canon massorétique. Le premier ne fut pas retenu dans le canon des Écritures fixé à partir du synode rabbinique de Yavné, synode qui fut tenu après la grande catastrophe de la destruction du Temple, qui, je le rappelle, était le lieu central du culte d'Israël, donc Temple détruit par les légions de Titus. Ce livre ne figure pas dans le canon massorétique, bien que son original fut écrit en hébreu. Il faut dire quand même qu'on en a perdu la trace pendant de nombreux siècles, entre le moment où, au 5e siècle, Saint Jérôme affirme avoir connu le texte dans sa langue d'écriture, c'est-à-dire dans la langue hébraïque, et sa redécouverte pour plus de 2/3 du texte actuellement établi. Sa redécouverte qui a été faite dans une Génésia d'une synagogue du Caire à la fin du 19e siècle. Et d'autres découvertes de fragments de ce texte ont été faites dans les grottes de Qumran, donc dans les années 50 du XXe siècle. Mais également, on a trouvé des fragments à la forteresse de Masada, qui fut le dernier bastion de la résistance juive, comme nous le savons. Le second, donc la sagesse de Salomon, roi d'Israël, est placé dans la Septante entre le Cantique des Cantiques et la sagesse de Sirach ou Ecclésiastique, comme je l'ai dit. Bon, ce texte-là, il est en grec. On n'a aucune espèce de certitude sur l'auteur, puisque, au moins actuellement, on n'en connaît pas le nom. Il y a des hypothèses qui ont été faites quant à l'origine du rédacteur. Il pourrait s'agir d'un lettré juif d'Alexandrie. Vous savez qu'à Alexandrie, on en a parlé dans les années précédentes, et le professeur Ivan Koenig a fait un séminaire sur l'école d'Alexandrie, ici même. Donc à Alexandrie, il y avait une communauté juive extrêmement importante. D'abord, Alexandrie était l'un des principaux centres intellectuels de l'Antiquité, pas seulement intellectuels, d'ailleurs aussi commercial et dans d'autres domaines. Et il y avait une communauté juive très importante. Philon d'Alexandrie, d'ailleurs, l'un des principaux représentants de cette communauté, ira jusqu'à dire qu'il y avait en Égypte environ 1 million de juifs à cette époque. Alors, certains critiques ont estimé que le nombre était probablement exagéré, mais quoi qu'il en soit, il est certain que la communauté juive d'Alexandrie était numériquement très importante, qu'elle a eu une influence intellectuelle et politique très importante. Et souvenons-nous d'une délégation qui fut conduite par Philon lui-même et reçue par l'empereur à Rome. Alors, d'ailleurs, dans ce texte de la sagesse de Salomon, toutes les citations sont tirées de la Bible des Septante, donc du texte grec. Des Septante, Septante, je rappelle, c'est la Bible en grec, donc dont la traduction est faite par des savants juifs à la demande du roi Ptolémée. Le grand prêtre de Jérusalem envoya 70 savants et ils traduirent en langue grecque donc la Bible hébraïque, du moins le texte de la Bible hébraïque était connu à ce moment-là, qui a des variantes manifestement avec le texte beaucoup plus tardif de la Massorah. Et ce texte était destiné à cette très importante communauté juive d'Alexandrie, qui, évidemment, dans la prière liturgique de la synagogue, les textes étaient prononcés en hébreu, mais l'hébreu n'était plus compréhensible. Donc il fallait traduire dans la langue parlée par cette communauté. Donc dans la Massora, les textes sapientiaux, à l'exception des deux que j'ai mentionnés et qui n'y figurent pas, sont rangés dans les écrits, les Ketuvim, la troisième partie de la Bible juive, après la Torah, les Nevi'im, les prophètes, et les Ketuvim, les autres écrits. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par l'étude de ces livres sapientiaux en ouvrant le livre des Proverbes, qui s'appelle Mishler Salomon ben David Melech Israël. Donc, proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Le titre dans la Septante en grec est rigoureusement le même. Et proverbe, paroimiai, donc en grec a donné proverbium en latin, et proverbe en français. Alors, ce livre des proverbes, de quoi est-il constitué ? Il est constitué d'une collection de 513 proverbes, parmi les plus importants. Pourquoi je dis parmi les plus importants ? C'est parce qu'ils ont fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, de 3000 sentences, que le roi Salomon a prononcées, du moins si l'on en croit le troisième livre des règnes, qui correspond dans la Bible hébraïque au premier livre des rois, et où il est dit à propos de Salomon, je cite, « Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et les connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Pardonnez-moi, il était plus sage, il s'agit du roi Salomon, qu'aucun homme, plus que Ethan, les Rakites, plus que Eman, Calcol et Darda, les fils de Makol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Et le livre donc des rois ajoute, il a prononcé 3000 sentences, composées de 5000 cantiques, et au verset 34 du quatrième chapitre, le texte ajoute, toujours dans le livre des rois, hein, donc, il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Donc c'est au chapitre 4, les versets 29 à 34. Et voilà. Cette affirmation du livre des rois, elle est répétée dans deux paralipomènes qui correspondent à deux chroniques dans la Bible hébraïque. Je cite, « Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. » Donc deux paralipomènes ou deux chroniques 9, versets 22-23. Alors, ce même deuxième livre des paralipomènes, au premier chapitre, verset 8, nous montre que Dieu apparut, je cite, « Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Ça, c'est au verset 8. Et 2 Chroniques, verset 8, chapitre, oui, au premier chapitre, pardon, deuxième livre des Chroniques, premier chapitre, verset 8, et au verset 10, Salomon répond, « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. » Et pourquoi il dit ça? Eh bien, il faut se souvenir que le roi était invité à mettre fermement en pratique les prescriptions qui lui sont propres, les prescriptions qui le concernent, qui le concernaient plus exactement. Et ces prescriptions, elles sont énoncées en Deutéronome 17. Je cite, « Il devra l'avoir avec lui. » Sous-entendu, ce n'est pas cité tel quel, mais il s'agit bien du livre de la Torah. Hein. « Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre le Seigneur son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. » Donc c'est Deutéronome 17, les versets 19 à 20. Donc le roi Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recherché la sagesse, il l'a demandé à Dieu, et Dieu lui a demandé, lui a fait la grâce de pouvoir la trouver, et Salomon a recherché la sagesse, mais pas n'importe quelle sagesse. Là, c'est la sagesse avec un grand S, c'est la sagesse divine. C'est un nom divin, la sagesse. C'est pas seulement une pratique qui relèverait d'un usage modéré des biens, de la pratique des vertus, tout ça, c'est bon, c'est très bien tout ça. Mais là, la visée est plus haute, c'est la sagesse divine qui est quêtée, qui est recherchée. Et de ce fait, il a donné des sentences, des proverbes. Et ces sentences, ces proverbes, eh bien, elles sont de quelle essence sont-elles? Ben, elles renvoient d'abord à des réalités fondamentales de la vie, mais dans un but bien précis, c'est d'exercer de susciter le discernement. De susciter le discernement. Chez celui qui recherche la sagesse, de susciter la réflexion, de susciter le discernement. Et alors, il y a un fait qui est tout à fait remarquable, bien sûr, c'est que ces sentences, cette recherche, elles sont toutes ordonnées. Ces sentences, ces proverbes, ces paroles, cette recherche de la sagesse divine, tout cela est ordonné autour de deux thèmes absolument fondamentaux. Le premier, c'est la crainte de Dieu. Ça parcourt tout le livre. C'est un thème, le thème de la crainte de Dieu, qui revient à 14 reprises dans le livre des Proverbes. Arche Sophias Phobos Theou. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Proverbe 1, 7. Vous voyez, c'est dès le prologue du livre, cette affirmation essentielle qui est au cœur de tout le livre des Proverbes et nous est donnée. Et puis alors, bon, le second thème qui dépend directement du premier, parce que tout ça, c'est pour mettre en pratique. C'est l'avoir dans le cœur, sur les lèvres, et le mettre en pratique. Exactement comme la loi. qui est donné. Eh bien, le deuxième thème dépend directement du premier, c'est-à-dire vivre, mettre en pratique, vivre selon les préceptes de la sagesse divine. Et alors, à ce propos-là, je ferai une note préliminaire parce que je vais revenir sur cette chose très importante, c'est que dans le livre des Proverbes, la sagesse, ce n'est pas seulement un attribut de Dieu, la sagesse, elle est personnifiée, ça c'est fondamental aussi. Comme d'ailleurs dans le livre du Siracide, la même ra, la parole, sera personnifiée aussi. Donc, il faut le garder en arrière-plan, ça, parce qu'on va voir l'importance que ça revêt tout au long du livre. Personnification, je vous le rappelle, qui sera récapitulée, qui sera accomplie dans la personne du Christ, Verbe de Dieu fait homme, qui est, comme nous dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au verset 30, le Christ qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Alors, maintenant, voyons qui est l'auteur du livre de la sagesse. Nous avons vu que Salomon, fils de David et roi d'Israël, a reçu, parce qu'il l'a demandé, a reçu du Seigneur la sagesse, comme c'est mentionné dans la citation que j'ai faite du livre des règnes. Et pour cette raison, d'ailleurs, sa renommée fut immense, comme il a été dit. On sait que pour l'essentiel du livre, il en est l'auteur. Par exemple, les chapitres 1 à 9 et 10 à 22, verset 16, sont de lui, mais figurent en outre dans le corps du livre d'autres sentences de sages, là, des chapitres 22, verset 17 à 24, verset 34. Donc je rappelle, hein, chapitres 1 à 9 et 10 à 22, jusqu'au verset 16, sont du roi Salomon. Ensuite, chapitre 22, verset 17 à 24, verset 34, c'est un ensemble de sentences de sagesse, mais d'autres provenances que celles du roi Salomon. On n'a pas de datation possible en l'état actuel de la recherche biblique, on n'a pas de datation possible à offrir pour cette partie du livre des Proverbes qui renferme des sentences de sagesse d'autres provenances que salomoniennes. Je rappelle que Salomon régna de 971 à 931. Je rappelle également que le livre des Proverbes, tel que nous le connaissons dans nos Bibles, n'a été définitivement constitué en la forme que sous le règne d'Ézéchias. Hein, on le sait par le livre des Proverbes lui-même. Hein. Et Ézéchias, lui, il a régné de 715 à 686. Ça, c'est des dates avant Jésus-Christ, hein, donc c'est décroissant. 971 à 931, le long règne de Salomon, et 715 à 686, celui d'Ézéchias, donc longtemps après Salomon. Les chapitres 25 à 29, donc, ont été insérés dans le livre par le roi Ézéchias, mais on estime qu'ils sont du roi Salomon. C'est pas Salomon qui les avait placés dans ce recueil, mais ils ont été placés par Ézéchias, mais ils sont d'essence salomonienne. Puis ensuite, il y a des annexes, si j'ose dire, le chapitre 30 avec les paroles d'Agur, et ensuite les paroles du roi Lemuel, et ensuite qui se termine donc par l'éloge de la femme forte. Donc, en résumé, quand on voit les différentes strates du recueil, on peut dire, sans risque d'erreur, que pour l'essentiel, on est bien placé en face d'un recueil salomonien. Alors, bien sûr, on va, si on s'intéresse à la composition du texte, tous les exégètes, les commentateurs ont remarqué, ont discerné plusieurs influences dans le livre des Proverbes. Ben, c'est tout à fait logique et normal, parce que la littérature sapientiale, elle n'appartient pas seulement à la Bible. C'est quelque chose qui est partagé par de nombreux peuples de l'Orient, et cette littérature sapientiale remonte à une très haute époque. Hein. En particulier celle des Égyptiens, des Mésopotamiens, et plus tard des Grecs. Bon, beaucoup plus tard pour les Grecs. Et il faut dire que les textes égyptiens, nous le savons, hein, c'est quelque chose de tout à fait connu, jouissaient d'une renommée, d'un éclat particulier. Hein. Au sein de toute cette abondante littérature sapientiale des peuples de l'Orient ancien. Et il est facile, en confrontant les textes, il est facile de remarquer la proximité entre le recueil salomonien et, par exemple, le livre de la sagesse égyptienne appelé « Aménéopé ». Et d'autre part, la pratique du genre littéraire de ces sentences était très en vogue à la cour du roi. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui pratiquaient ce genre littéraire. Et puis, ce genre littéraire était aussi très abondamment utilisé pour l'instruction des enfants dans les familles. Hein? Le père et la mère de famille se servaient beaucoup de ces sentences pour l'éducation des enfants. Je crois que c'était, de ce point de vue-là, des heureux temps, parce que ça s'est perdu, ça, et c'est bien dommage. Alors, dans le prologue du livre des Proverbes, il est dit que ces sentences sont données, je cite, « pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. » Donc ça, c'est le premier chapitre, versets 2 et 4. 2 à 4, pardon. Et le texte du prologue ajoute: que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme. Chapitre 1, versets 4b à 6. Donc la visée de ces sentences du roi Salomon, elles ont bien pour but d'acquérir un discernement dans un but précis, celui de la mise en pratique, car ce savoir, eh bien, il enseigne quoi? Il enseigne la bonne manière de conduire sa vie selon le désir de Dieu, parce que c'est la sagesse divine qui est quêtée ici, selon le désir de Dieu pour l'homme. Et la crainte de Dieu est au principe de ce savoir, de cette connaissance. Ça, c'est très important. ces sagesses nous permettent, enfin, ont pour but de nous permettre de vivre selon le désir qu'a Dieu envers l'homme, dans la crainte de Dieu et laquelle est au principe de ce savoir. Et la base, le fondement, le commencement de ce savoir, ainsi qu'il a été dit au verset 7 du prologue. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Deuxièmement, il faut savoir qu'est-ce que ça veut bien signifier le verset 6 du prologue, je cite le verset 6, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme. Je l'ai rappelé tout à l'heure, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme. Alors, ces sentences du livre des proverbes sont énoncées selon un procédé bien connu des anciens hébreux, et en tout cas que l'on trouve fréquemment utilisé dans la Bible. C'est ce qu'on appelle le machal. C'est un procédé qui est présent à de nombreuses reprises. Et dans le livre des Proverbes, il est présent partout à l'exclusion de la première collection et de la dernière collection des sentences. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machal? Eh bien, on part d'une réalité expérimentale que tous connaissent, parce que c'est dans l'expérience de la vie de tous les jours, ça renvoie à des réalités quotidiennes appréhendées par tous. Et ce machal, ben, il induit l'idée d'une similitude, il amène à une comparaison. On retrouve ça aussi dans l'Évangile, puisque bon, les paraboles du Christ, elles fonctionnent selon ce procédé-là. Le Christ, il enseigne à partir d'une réalité quotidienne empruntée au monde familier de ses auditeurs. Il emprunte à partir de ces réalités expérimentales connues, appréhendées par tous, et de là, par une comparaison, donc il nous conduit à une réalité spirituelle qui est plus haute, parce que l'objectif, c'est justement de nous amener à cette réalité spirituelle. Bien sûr, c'est pas de rester simplement à la réalité expérimentale, mais bon, voilà, ce procédé, il est utilisé dans le livre des Proverbes, dans les paraboles de l'Évangile, et on peut dire d'une manière générale que c'est un procédé qui est très largement répandu dans toute la littérature poétique et sapientiale, et en particulier celle de la Bible. Parallélisme donc entre deux ordres de réalité, qu'ils soient synonymiques, mais le plus souvent, comme c'est le cas, nous allons le voir dans le cours, comme c'est le cas dans la deuxième collection, à partir du chapitre 10, ce parallélisme, il est plutôt antithétique, hein, c'est même quasiment la règle à partir du chapitre 10. On peut citer quelques exemples, hein, pour illustrer cette affirmation. Bon, chapitre 10, verset 4, « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais les mains des diligents enrichit. » La main des diligents enrichit. Donc, voilà, on est dans un parallélisme antithétique. « Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. » 10, verset 8. Là encore, parallélisme antithétique. Toutes les citations que je fais là relèvent de ce parallélisme antithétique. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Verset 16, chapitre 10. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Verset 19. Saint Arsène du désert, d'ailleurs, a une parole qui fait écho un petit peu à cette sentence salomonienne, puisqu'il disait « Je me suis souvent repenti d'avoir parlé, de m'être tu jamais. » On trouve ça dans les apophthegmes des Pères du désert. Autre sentence qui est fondée sur ce parallélisme antithétique dans le cadre du procédé du Machal, « La balance fausse est en horreur au Seigneur, mais le poids du juste lui est agréable. » 11, verset 1. « La crainte du Seigneur augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. » 10, verset 27. Le méchant est celui qui fait donc intentionnellement du mal à autrui, hein, ça va sans dire. Hein. Donc, c'est pas la peine de multiplier les exemples sur l'utilisation de ce procédé du Machal, donc qui a pour but, je le rappelle, de provoquer l'interrogation, de mettre en mouvement et d'inciter au discernement. Voilà. Ce livre des Proverbes, de le lire, hein, c'est un livre qui n'est pas un livre simplement, comme d'aucuns peuvent le penser, de sagesse humaine, renfermant des sentences de simple sagesse humaine, ce qu'est la sagesse, puisque dans ce livre, le roi Salomon quête la sagesse divine, et pour dans le but de vivre selon les préceptes, selon les commandements de Dieu, dans le but d'être agréable à Dieu dans sa vie quotidienne. Alors, interrogation, mouvement, incitation au discernement. Saint Jean Chrysostome, d'ailleurs, nous le dit. On doit à Saint Jean Chrysostome un résumé sur l'ensemble des livres de l'Ancien Testament, pardon. Et dans son résumé sur le livre des Proverbes, voici ce qu'il dit à propos du verset 6 du prologue. Donc je rappelle, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme. Je cite Saint Jean Chrysostome. Les proverbes sont des sentences rempli de sagesse énigmatique en quelque façon, qui ont par elles-mêmes un sens complet, mais qui renferment un sens caché. Le sens apparent dans les proverbes sert de voile au sens caché. C'est ainsi que dans l'évangile de Saint Jean, les disciples du Seigneur, habitués à l'entendre parler d'une manière obscure, lui disent un jour: voilà que maintenant tu parles en clair et sans figure ou sans parabole. C'est en Jean 16, verset 29a. Et Saint Jean Chrysostome dit « Preuve évidente du sens obscur des proverbes. » Comme les paraboles ont aussi un sens caché, obscur. Alors, il continue « Que renferme le sens des proverbes ?» Il apprend à connaître la sagesse et la discipline. Il fait comprendre les paroles de la prudence. Il donne la lumière de l'intelligence et de la justice. Dirige les jugements et promet de découvrir le sens des paraboles. Les discours des sages, leurs énigmes et leurs mystères. Et un peu plus loin, il ajoute: le sage qui prête l'oreille aux oracles divins devient de plus en plus sage. S'il écoute les paroles de Dieu et les met en pratique, il ne suffit pas d'écouter, il faut mettre en pratique, s'il observe sans négligence la discipline du Seigneur, ne se laissant point entraîner par la frivolité et le mensonge, il deviendra sage et instruit et recevra la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu, en effet, qui fait les sages. L'intelligence des discours de la sagesse qu'est-elle autre chose que la science du Dieu unique et véritable ? Donc c'est la fin de la citation du résumé du livre des Proverbes fait par saint Jean Chrysostome. Et à la suite de ça, pour argumenter ces affirmations, il cite bon nombre de sentences du livre des Proverbes. Le livre des Proverbes rassemble nombre de thèmes de l'Écriture, car les présentant sous l'angle concret d'une vie juste, c'est-à-dire d'une vie qui soit conforme à la vérité divine, eh bien, c'est pour cette raison aussi, là je viens de faire une citation, j'ai oublié de mentionner à qui elle appartient, mais sachez que c'est pour ça aussi que le livre des Proverbes aborde la question du discernement. Parce que ces sentences provoquent au discernement, donc poussent à un choix entre ce qui plaît à Dieu et ce que Dieu a en horreur. C'est toujours cette question du choix qui parcourt l'Écriture sainte en nombre de ses livres, ce choix qu'on trouve dans le Deutéronome, qu'on trouve dans l'Évangile, qu'on trouve dans la littérature post-apostolique, par exemple comme dans la Didaché, d'ailleurs, la question du choix entre la vie et la mort, c'est les premières paroles de la Didaché ou l'enseignement des 12 apôtres. Et c'est une parole d'ailleurs qui reprend ce que nous trouvons déjà dans le Deutéronome. Autrement dit, ce livre des Proverbes n'a pas pour but essentiellement de nous mettre en présence d'une simple sagesse humaine qui, pour respectable qu'elle soit, n'est pas la visée de ce livre. Ce livre, il met en question la manière de penser et d'exister de l'homme déchu pour amener un retournement, pour amener une conversion, pour amener à une vie qui est en tout point agréable à Dieu. Donc, il y a un choix, le choix entre les deux voies. Je pense qu'on en a une très belle illustration au travers de ce que l'on peut, avec prudence, classer en trois catégories. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure avec prudence, mais classer en trois catégories. Pourquoi il faut le faire avec prudence? Parce que l'une des particularités remarquables du livre des Proverbes, c'est que les thèmes s'enchevêtrent. Ils s'enchevêtrent à l'infini. Il n'y a pas un classement rationnel des sentences avec des têtes de chapitre. Bon, il y a dans l'ensemble du livre un enchevêtrement des différents thèmes et il faut un petit peu aller à la pêche pour les trouver, les classer, les mettre en catégorie, non pas pour fossiliser les choses, mais pour essayer d'y voir un petit peu clair. Donc, sous cette réserve-là, le fait que ces thèmes nous sont donnés en ordre dispersé, que c'est lié aussi à l'histoire de la composition du recueil, comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, on peut quand même repérer un plan général du livre. Premièrement, il y a une ouverture, donc un prologue en 7 versets, avec un titre dans le verset 1, hein, « Sagesse de Salomon, fils de David, roi d'Israël ». Très clairement énoncé la visée du livre, ce à quoi il veut nous conduire, donc les versets 2 à 6, et le thème fondateur, la pierre de fondation de toute cette quête de la sagesse divine. Le verset 7, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Passé ce prologue, donc, nous entrons dans du chapitre 1, à partir du verset 8 jusqu'au chapitre 9, verset 18, dans des paroles d'un père à son fils. Écoute, mon fils, écoute, mon fils, c'est toujours, c'est repris à plusieurs reprises hein, dans le corps du livre. C'est une parole très importante, ça peut paraître complètement anodin, et pourtant c'est très important, parce que d'abord ça renvoie à la transmission, instruction et transmission, et puis cette terminologie, on la trouve aussi de manière très importante dans la Bible. Écoute Israël, ça commence par l'écoute. Écoute Israël, écoute mon fils. La foi commence par l'écoute, nous dit saint Paul. Vous voyez, c'est un thème redondant et qui est d'une grande importance. J'écoute la parole, mon cœur étant préparé par l'esprit à la recevoir, parce que par mes seules forces, je ne peux pas la recevoir. C'est l'esprit qui, agissant secrètement en mon cœur, l'ouvre pour que, en écoutant la parole de vérité, je la reconnaisse comme vraie. Ta parole est vérité, Seigneur. Sanctifie-nous par la vérité. C'est dit dans l'Écriture. Donc, voilà. Ça commence par l'écoute. Et l'instruction, la transmission du Père au Fils, ça commence par l'écoute également. Donc, c'est la deuxième catégorie, je dirais. Parole d'un Père à son Fils qui commence par ces mots. Écoute, mon Fils. Là, on a une série de sentences qui sont dédiées à l'instruction. Donc, je rappelle, chapitre 1 à partir du verset 8, jusqu'au chapitre 9, verset 18. Ensuite, les paroles du roi. Et là commence la longue série, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la longue série des sentences salomoniennes, les proverbes du roi Salomon. Du chapitre 10, verset 1, au chapitre 22, jusqu'au verset 16. Donc voilà, les premières séries, parce qu'il y a, à la fin du livre, il y en a d'autres, première série de proverbes de Salomon, chapitre 1, chapitre 10, verset 1, jusqu'au chapitre 22, à la fin du chapitre. Fin du verset 16, pardon. Bon. Quatrièmement, le recueil des paroles de sagesse anté-salomonienne. Donc j'ai fait référence tout à l'heure au fait qu'il y a une série de sentences qui n'appartiennent pas au proverbe de Salomon, mais qui font partie de la sagesse des peuples environnants, qui sont intégrés dans ce recueil, mais pour les faire servir à la quête de la sagesse du Dieu unique. Entendons-nous bien. Donc du chapitre 22, verset 17, au chapitre 24, donc jusqu'à son... chapitre 22, verset 17... Chapitre 24, jusqu'à son dernier verset, qui est le 34e. Voilà. Ensuite, la sagesse anté-salomonienne, nous trouvons donc à nouveau des paroles de Salomon, cette fois qui ont été rassemblées, comme je l'ai dit, et insérées dans le recueil par le roi Ézéchias, du chapitre 25, verset 1, au chapitre 29, verset 27, lequel clôt le chapitre 29. Puis, nous trouvons est-ce qu'on peut appeler ça un ex ? Je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais trois autres séries, beaucoup plus courtes, ça commence au chapitre 30 et ça se termine au chapitre 31, donc les paroles d'Agur, qui est un sage renommé, qu'on connaît quasiment rien sur lui, mais sa renommée le précède visiblement. Et c'est un contemporain du roi Salomon. Et donc ces paroles d'Agur sont consignées dans le chapitre 30, versets 1 à 33. Vous voyez, c'est court. Hein. Ensuite, il y a les paroles du roi Lemuel, chapitre 31, versets 1 à 9. Et ensuite, ce qui termine le livre des Proverbes, l'éloge de la femme forte, chapitre 31, versets 10 à 31. Donc c'est un éloge quand même assez conséquent. Alors, compte tenu du fait, si vous voulez, que les Bibles en langue française à l'heure actuelle sont organisées à partir... sont traduites et organisées à partir du texte massorétique. Il n'y a qu'une Bible qui est en cours, qui n'est pas encore achevée, c'est ce qu'on appelle la Bible d'Alexandrie, c'est la traduction des Septante, donc qui est donnée en plusieurs recueils au fur et à mesure de l'avancement de la traduction et de la constitution d'un appareil critique fortement charpenté, qui comprend notamment des comparaisons entre le texte massorétique et le texte des Septante. Mais ici, j'ai pris l'organisation du livre des Proverbes tel qu'il figure dans les Bibles françaises auxquelles vous pouvez vous référer. Sachez tout de même que l'organisation, la répartition et l'organisation des sentences dans la Septante ne fonctionne pas exactement de la même manière. Bon, ça ne remet pas en cause la signification de l'ensemble, mais il y a des variantes par rapport au texte massorétique dont j'ai utilisé les traductions françaises, parce que bon, vous avez tous la possibilité de vous référer à des Bibles en langue française. À l'intérieur donc de ce plan, j'espère que j'étais bien clair sur la description du plan général de ce livre des Proverbes. Donc à l'intérieur de ce plan, on peut repérer dans tout cet enchevêtrement de thèmes, on peut repérer trois grandes catégories qui nous fournissent des éléments, d'abord sur la relation de l'homme à son Dieu, ensuite la relation de l'homme avec ses semblables, et ensuite l'homme avec lui-même. Bon, ce qu'il a à l'intérieur de lui-même et ce qu'implique notamment la quête de la sagesse divine dans le combat qui se déroule à l'intérieur de l'homme lui-même contre les passions. Ce n'est pas énoncé comme tel, on n'emploie pas ce vocabulaire comme tel qui appartient au vocabulaire de la tradition patristique, mais la réalité de ce combat est bien présente. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de changer le mode de pensée qu'était chercher, désirer la sagesse divine, c'est changer le mode de pensée et de l'agir propre à la nature déchue, évidemment. Donc ces trois aspects de la vie de l'homme sont évoqués dans cette perspective. Alors, d'abord l'homme devant son Dieu. S'agissant de sa relation avec lui, donc avec son Dieu, les sentences dégagent un certain nombre de thèmes. D'abord, le thème fondamental de la crainte de Dieu. Et je rappelle qu'il ne s'agit pas du tout de la crainte au sens d'une peur telle que nous pouvons la connaître. Ce n'est pas une crainte psychologique. Hein. C'est une crainte devant l'absolue sainteté de Dieu, c'est une crainte devant celui qui voit tout, devant celui qui nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, mais qui pour autant, je précise, n'a rien à voir avec un tyran. Hein. C'est pas le Big Brother des sociétés occidentales qui grossit à vue d'œil à l'heure actuelle. C'est celui qui est la source, le principe et l'origine de toute chose, qui connaît tout, qui embrasse d'un seul mouvement, sa connaissance embrasse d'un seul mouvement ce qui était, ce qui est et ce qui vient, mais en même temps, c'est celui qui respecte notre liberté, qui n'agit pas sans nous ou contre nous, ou indépendamment de nous. Ça, ceci est, je le rappelle, tout à fait fondamental. Et cette crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, cette crainte qui est la conscience de l'absolue sainteté de celui qui voit tout, de la distance qui nous sépare de lui, en tant qu'héritier de la nature déchue, qui est elle-même la conséquence de la transgression d'Adam, eh bien, cette crainte, elle nous introduit dans le repentir, et nous fait désirer le retour à la santé. Nous fait désirer mener une vie qui soit agréable à Dieu, donc nous fait désirer le retour à la santé spirituelle et le salut. Je rappelle que ce sont des réalités équivalentes. La santé spirituelle, le salut qui est une grâce de Dieu, eh bien, la santé spirituelle qui est le résultat de la guérison par le Christ, eh bien, tout ça, ce sont des réalités, des notions qui sont équivalentes. Donc ça exprime le désir qui doit se traduire en acte par l'observance des commandements du Christ, par l'acquisition du Saint-Esprit, hein, j'oublie son nom, ce célèbre saint qui nous dit, qui nous parle de Saint Séraphin de Sarov, qui nous parle de l'acquisition du Saint-Esprit. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Eh bien, cette acquisition, cette quête de l'acquisition du Saint-Esprit, elle nous ouvre, à la sagesse d'en haut, à la sagesse divine. Et c'est donc à cela que s'attache toute une série de sentences qui sont souvent répétées, hein, qui sont souvent mêlées dans le corps du texte, quand elle nous parle de l'humilité, de l'obéissance, quand elle nous parle des épreuves, du péché, de la mort, de la rétribution, de la bénédiction divine, c'est à tout cela que s'attache cette série de sentences. Alors, on peut citer quelques exemples, hein, pour ne pas rester abstrait, mais reportez-vous au texte, lisez très attentivement l'ensemble du recueil salomonien, c'est très important, lisez-le attentivement, sans hâte, et vous verrez, vous en tirerez un grand profit. C'est un ensemble de sentences qui n'est pas utile, mais c'est important de quand même parvenir à la lecture intégrale de ce recueil salomonien, et en particulier pour ceux, bien sûr, qui suivent ce cours. Alors, quelques exemples. Au premier chapitre, le verset 20, La sagesse crie. La sagesse crie dans les rues. Ça, c'est important aussi, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. À l'entrée des portes dans la ville, elle prononce ces paroles. « Jusques à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité ? Jusques à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie ? Et les insensés haïront-ils la connaissance ? Revenez, ça nous renvoie au thème de la Teshuvah, de la métanoïa, ce retournement, ce retour. Revenez pour écouter mes réprimandes. Voici que je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. » Donc ça, c'est au premier chapitre, les versets 20 à 23. Alors, évidemment, ça résonne, ces paroles des versets 20 à 23 du premier chapitre, ça résonne avec les paroles prophétiques. Ça résonne avec la voix du Christ qui est venu pour tout accomplir et proclamer l'urgence de ce retour. Hein? L'urgence de ce retour. Dans l'Évangile, il vient dire « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Parce que la venue du Christ, c'est la venue du royaume au milieu de nous. Et c'est la venue de l'accomplissement des temps et c'est la venue du jugement. Parce que la parole du Christ opère le jugement. Alors, la foi et la vie selon les commandements de Dieu est confiance en lui. Il est dit, chapitre 3, verset 1, « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. » Mais évidemment, à travers la voix et l'enseignement, l'instruction du Père à son fils, nous savons que c'est Dieu qui parle. « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. » L'oubli, c'est quelque chose de fondamental dans la Bible, dans toute l'Écriture sainte. Il faut garder la mémoire, faire anamnèse. Et dans la liturgie, dans la divine liturgie, nous faisons anamnèse des paroles du Christ. Hein? Bon, dans le livre de l'Exode, les Hébreux font anamnèse de la sortie d'Égypte. L'oubli, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que l'oubli, c'est ce qui nous sépare de Dieu. L'oubli nous emmène dans les ténèbres. L'oubli fait que nous sommes, au sens propre du terme, désorientés. Alors que, si nous sommes dans le Christ, nous sommes orientés, parce que nous marchons vers notre véritable nature. C'est tout le sens, justement, du thème de la déification. Autre citation, donc chapitre 3, versets 5 à 6. « Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Donc ne pas compter sur ses propres forces, sur sa propre volonté, mais s'abandonner à Dieu qui est le plus sûr de tous les guides. Dans sa relation avec Dieu, l'homme pénétré de la crainte du Seigneur, donc comme c'est dit en 1.7, doit être humble. Pourquoi ? Parce qu'il doit se souvenir d'où il a été tiré. Il doit faire mémoire en lui-même de cela, d'où a-t-il été tiré. Il doit connaître son indignité devant celui qui est origine et source de toute chose, de tout être. Il doit connaître son indignité, ses limites, ses faiblesses devant lui, qui est principe de tout. Et ce faisant, en faisant cela, qui est une attitude pratique, hein, c'est pas simplement un raisonnement intellectuel, c'est une conduite tout à fait pratique agréable à Dieu et qui est susceptible d'attirer la bénédiction divine sur lui, sur cet homme qui est ainsi. Je rappelle à ce propos-là d'ailleurs que l'humilité est à distinguer de la modestie. L'humilité, c'est une vertu spirituelle, la modestie, c'est quelque chose d'éminemment respectable que la modestie, que les gens modestes. Mais la modestie, c'est une vertu sociale. L'humilité, c'est une vertu spirituelle. La loyauté est la garde de la vérité aussi. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Et là, il y a une parole forte qui est donnée. Lis-les, du verbe lier. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. C'est fort, ça, hein? Eh bien, voilà encore une sentence qui atteste de la relation vivante de l'homme à Dieu. Et ces paroles, d'ailleurs, nous renvoient aux prescriptions de Deutéronome 6, versets 6 à 8. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les liras comme un signe sur ta main, et elles seront comme les frontaux entre tes yeux. Et il y a également, outre ce verset de Deutéronome 6, en Exode 13, 9, « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un rappel entre tes yeux, afin que la loi du Seigneur soit dans ta bouche. » Donc Exode 13, verset 9a. Alors, à ce propos d'ailleurs, le texte grec des Septante a une variante, il indique non pas comme des frontaux entre tes yeux, mais devant tes yeux. Bon, ça ne change pas le sens. Alors, ces versets sont, je le rappelle aussi, à l'origine de l'usage liturgique dans le judaïsme, en prière, l'usage des phylactères. Et cet usage est très ancien, puisqu'il est attesté au 1er siècle de notre ère. Autre thème, confession des péchés. Je cite, « Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. » De la crainte de Dieu, il s'agit. Hein. « Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » C'est au chapitre 28, les versets 13 à 14. C'est donc la seule attitude juste devant Dieu qui voit tout et qui nous connaît mieux que nous ne connaissons nous-mêmes, ainsi que je l'ai déjà dit. L'obéissance au commandement, thème très présent dans la première partie, celle des instructions que le Père donne à son Fils, obéissance qui attire la bénédiction divine, car, je cite, 10-22, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Et pour clore cette série de thèmes qui nous renvoie à la relation de l'homme avec Dieu, rappelons quelque chose de très important. L'affirmation, parce que tout ça, ça signifie quoi ? Ça signifie l'affirmation de la complète dépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Il y a une sentence qui atteste cela, au chapitre 16, verset 9. « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est le Seigneur qui a fermé ses pas. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, enfin la conséquence de ça, conséquence très concrète, c'est que selon le livre des Proverbes, il faut s'en remettre à lui, c'est-à-dire à Dieu, en confiance. D'ailleurs, vous savez que foi et confiance, vous le savez tous, hein, foi et confiance, c'est la même racine. Pistis, c'est foi et confiance. Et on le voit également au chapitre 3, verset 5. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est-à-dire sur tes seules forces, Ne crois pas que par tes seules forces, tu peux aller bien loin. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Confie-toi à Dieu de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Chapitre 3, 5, 6. Jusqu'au point d'affirmer, ne dis point « je vais rendre le mal », donc selon la loi du talion, « espère en Dieu et il te délivrera », chapitre 20, verset 22. Et ce verset est évidemment à rapprocher aux nombreuses paroles du Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile à ce sujet. Avant d'en venir, toujours dans le livre des Proverbes, à ce qui concerne les relations, les devoirs de l'homme envers ses semblables, il y a quelque chose d'important au chapitre 8, parce qu'il contient un enseignement sur la sagesse personnifiée. Sagesse personnifiée. D'abord, on peut remarquer un parallèle entre chapitre 1, verset 20, et chapitre 8, verset 1. La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ? Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse aux humains. Donc là, on voit déjà qu'on est dans le cadre d'une personnification. C'est au chapitre 8, versets 1 et 4. Et le verset 6 ajoute « Écoutez, c'est une chose digne de mention, ce que je vais dire. Et la parole de mes lèvres est la droiture même. » Et le verset 7 ajoute « Car ma bouche fait entendre la vérité, et mes lèvres ont en horreur la méchanceté. » Donc, la sagesse est ici personnifiée et elle adresse une parole qui s'adresse à tous, sans distinction. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un artifice littéraire ? Certains n'ont pas hésité à le dire. Eh bien, je crois que on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Il y a bien une personnification de la sagesse. Les versets qui rendent compte de cette personnification de la sagesse excluent tout artifice littéraire quant à cette question. La sagesse est ici nettement située dans la sphère de l'action divine qui est créatrice. Comme le dit une note en bas de page de la Tobe, et la suite du chapitre nous présente les titres de cette sagesse qui est auprès de Dieu. Les titres. Si la sagesse est personnifiée, elle a des titres qui la caractérisent. On est déjà proche des affirmations, enfin proche, on n'est pas très loin des affirmations de Johannique, du prologue de Jean. Et vous savez, bon bien sûr on est encore dans un cadre météo-testamentaire, mais on s'aperçoit que dans les livres sapientiaux, il y a une montée de la personnification, à la fois de la sagesse dans le livre des Proverbes et de la parole dans le livre du Siracide. Et ce n'est pas inintéressant de le souligner. Alors, quels sont les titres de cette sagesse personnifiée dans les Proverbes ? On nous dit d'abord qu'elle a pour demeure la prudence. Oui, la sagesse est prudente, puisque elle a un art consommé du discernement, donc elle habite la demeure de la prudence. Elle possède le discernement. À elle appartient le conseil. Comme elle est auprès de Dieu, c'est du conseil divin dont il s'agit. L'intelligence, la puissance ou la force. Et je cite verset 14 du chapitre 8, « Le conseil et la raison m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. » Et je vous rappelle que ce sont là des attributs messianiques, ni plus ni moins. citons Isaïe 11, versets 1 à 2, « Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse, de discernement, de conseil, de vaillance, de connaissance et de crainte du Seigneur. » Et donc là, nous retrouvons les six attributs de la sagesse personnifiés du livre des Proverbes et qui sont appliqués au Messie dans le livre d'Isaïe. Et le Messie, c'est le Verbe éternel de Dieu qui s'est fait homme. Alors la sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent, bien évidemment. Et elle aime ceux qui l'aiment. C'est dit dans le livre de la sagesse, cette fois-ci, au chapitre 6, versets 12-13. « Moi j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Et dans le livre de la sagesse, il est ajouté, la sagesse... Oui, non, ça ce verset, c'est dans les Proverbes, et la sagesse, le livre de la sagesse de Salomon, roi d'Israël, dont on parlera plus tard, affirme « La sagesse brille et ne se flétrit pas, elle se laisse voir aisément par ceux qui l'aiment et trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. » Puis on arrive, si j'ose dire, à la pointe du chapitre 8, c'est le fameux verset 22 à 31. Le Seigneur m'a engendré prémisse de ses voies avant ses œuvres depuis toujours. Dès l'éternité, j'ai reçu l'investiture. L'investiture, on va voir ce que c'est. Dès le début, avant les origines de la terre. Dès le début, avant les origines de la terre. Donc. On ne sait pas très bien ce que c'est que ce début, mais ça nous rapproche de l'engendrement de toute éternité, avant les origines de la terre. Quand il n'y avait pas d'abîme, je fus enfanté. Quand il n'y avait pas de source chargée d'eau, avant que les montagnes ne fussent enfoncées, avant les collines, je fus enfanté. Alors qu'il n'avait pas fait encore la terre et les campagnes et les premières poussières du monde. Il, c'est Dieu, bien sûr. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traça les fondements de la terre, je fus maître d'œuvre à son côté, objet de ses délices chaque jour, jouant en sa présence en tout temps, jouant sur le sol de sa terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Donc 8, 22, 31. Le Seigneur m'a engendré. Ekkisen, le mot hébreu kana, signifie aussi acquérir, créer, posséder, c'est un verbe qui est aussi employé dans le Siracide pour parler de la préexistence de la sagesse avant la création. Avant toute chose fut créée la sagesse et l'intelligence prudente dès l'éternité. Alors, la sagesse a reçu l'investiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, c'est le texte fait référence à l'onction. La sagesse est ointe comme celle de la lignée, comme la lignée de David est ointe. Et comme le roi Messie est oint. Qui est donc cette sagesse? 1 Corinthiens 30 répond que c'est le Christ qui est sagesse de Dieu. Et dans la révélation de la Nouvelle Alliance, le prologue de Saint Jean nous dit que le Verbe, qui est sagesse de Dieu, était auprès de Dieu de toute éternité. Proston Theon. Donc, ça souligne à la fois la très grande tournée vers, la très grande intimité du Père et du Verbe, et en même temps la distinction personnelle. C'est déjà, comme on le sait, et j'en avais parlé dans les cours sur l'évangile de Jean, l'expression du mystère trinitaire. Donc, engendrer non créé, dit le symbole de foi de Nicée-Constantinople, engendrement ineffable qui dépasse la mesure de toute intelligence. Créé, puisqu'il s'agit d'un engendrement de toute éternité. Donc, pour la raison créée et limitée, l'engendrement est lié à un commencement, évidemment. Et dans le symbole de la foi, on parle d'un engendrement de toute éternité, puisque cet engendrement n'est pas une création. Donc on sait que l'hérésie arienne, je fais un petit excursus, mais il est bon de s'en souvenir, l'hérésie arienne a utilisé Proverbe 8:22 pour énoncer une christologie nettement subordinatienne et pour réduire le mystère de l'unitrinité et de la consubstantialité des personnes. Et en même temps des distinctions hypostatiques entre les personnes, à une triade de type finalement néoplatonicienne. L'utilisation qu'a fait l'arianisme de Proverbe 8:22 a été fermement dénoncée par Saint Basile le Grand dans sa controverse avec Eunome qui avait produit une apologie très intelligemment faite, pleine de dissimulation, parce que, évidemment, une des grandes caractéristiques des hérésies, c'est qu'elles ont besoin de dissimulation, autrement dit, de mélanger des aspects de la vérité, d'ailleurs hérésie, ça veut dire choix, de mélanger des aspects de la vérité à leur sauce, si j'ose dire, pour dissimuler leurs intentions réelles. Et Eunome était un hérétique extrêmement intelligent. Si vous lisez l'apologie écrite de sa main et qui figure dans le contronym de Basile le Grand, qui réfute cette apologie point par point, vous verrez que Eunome était un hérésiarque redoutable. Et donc Basile le Grand le dénonce dans le contre-nom, mais aussi il y aura un contre-nom de Grégoire de Nice et Jean Chrysostome aussi ferraillera contre Eunome. Donc, dans sa réfutation de l'apologie d'Eunome, Basile réfute l'affirmation d'Eunome qui disait en substance « Nous disons que le Fils a été engendré alors qu'il n'était pas. » Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Eunome raisonne selon la raison déchue. Hein? Souvenez-vous que l'hérésie, le responsable de l'hérésie, ce n'est pas le logos, c'est-à-dire la raison que Dieu nous a donnée en nous créant. Le responsable de l'hérésie, ce sont les logismos, les raisonnements dans lesquels la raison humaine se perd. Hein? Et donc, Arius, il disait, nous disons que le Fils a été engendré alors qu'il n'était pas. Et c'est l'affirmation centrale de tout l'arianisme, parce qu'il y a eu une multitude de sectes dans l'arianisme, mais c'est cette affirmation centrale qui dit, il fut un temps où il n'était pas. Bon. Donc, autrement dit, c'est dire que le Fils est une créature, certainement une créature éminente, bien sûr, mais c'est une créature. Donc ça remet en cause les fondements même de toute la foi chrétienne, parce qu'une créature ne peut sauver. Le créé ne peut pas sauver le créé. Et sans parler, puisque ce n'est pas mon sujet là, mais que la christologie arienne subordinatienne, eh bien, ruine complètement le mystère de la Sainte Trinité. Donc, je n'irai pas plus loin sur cette référence-là. Allez, si vous voulez creuser un peu, dans le contre-nom au tome 2 des sources chrétiennes, c'est le volume 305. dans les sources chrétiennes donc, qui ont édité le contre-nom de Basile. Donc ce qu'il faut retenir de ce troisième chapitre, c'est la présence personnifiée de la sagesse. Personnification perceptible, qui est perceptible dès le début du livre des Proverbes, mais qui, en quelque sorte, culmine au chapitre 8. Sagesse engendrée, prélude à l'œuvre de la création, sagesse ointe depuis toujours, sagesse, verbe, maître d'œuvre. Alors bien sûr, on est encore là, dans le contexte vétérotestamentaire. Mais on peut dire qu'avec ce chapitre 8 et ses affirmations sur la sagesse personnifiée, eh bien, s'annonce déjà la plénitude de la révélation sur le verbe sagesse, verbe de Dieu, verbe engendré de toute éternité, verbe fait homme selon le dessein du Père. Et il faut aussi remarquer dans cet ordre d'idées, donc la proximité entre Proverbe 8, 22, 31 et l'hymne paulinienne aux Colossiens, donc chapitre 1, les versets 15 à 20, sur la primauté du Christ, icône du Dieu invisible, il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les seigneuries, les principautés, les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Voilà, j'en ai terminé aujourd'hui, donc nous poursuivrons, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le livre des Proverbes, au prochain cours, nous envisagerons, dans cette perspective salomonienne de quête de la sagesse divine, et ce que ça implique comme retournement de l'homme à l'intérieur de lui-même, la question des relations de l'homme avec son semblable. Voilà, merci de votre attention. Et lisez le livre des Proverbes, je vous en prie, parce que les références auxquelles je me livre seront plus parlantes pour vous dans la suite du cours. Merci.